menace que constitue l'ouragan Rita pour l'économie américaine ainsi que les tensions sur les marchés pétroliers conduisent pour le moment à un nouveau repli du CAC 40 qui abandonne 0,70% à 4436 points dans des volumes de 2,7 milliards d'euros. Le marché parisien n'est pas le seul à courber les chines. L'euro first 80 cède 0,64%. Sur le marché d'échange, l'euro s'établit à 1,2229 dans l'attente de la publication aux États-Unis à 14h30 des chiffres hebdomadaires de l'emploi qui seront suivis à 16h de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 472,75 $. Le CAC 40 lui recule maintenant de 0,70% à 4436 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Vous écoutez France Inter, il est très précisément 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet qui a le sourire. Bonjour Patrice.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, vérités et mensonges sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est merveilleux, c'est notre western. Georges Duby. Ans d'histoire. Les préjugés ont la vie dure et le Moyen-Âge une mauvaise réputation. Qu'un cyclone jette des millions d'Américains sur les routes, qu'une famine au Niger, un génocide au Cambodge ou une guerre en Bosnie tue des millions d'hommes et de femmes, ou que le fanatisme religieux détruise deux tours à New York, tout cela nous paraît aujourd'hui tellement inconcevable qu'on pense aussitôt à ce moment que serait, dit-on, le plus obscur, le plus sanglant et le plus rétrograde de l'histoire de l'humanité, le Moyen-Âge. Même si les siècles de Hitler, de Mao et de Ben Laden n'ont pas de leçons à donner à ceux de Tamerlan et d'Attila, même si les carnages de 14-18, les camps d'extermination nazis ou le sida ont fait infiniment plus de morts que la guerre de Cent Ans et la peste noire, même si les tribunaux staliniens valaient bien ceux de l'Inquisition, on continue de croire que le Moyen-Âge avait le monopole de toutes les violences, de toutes les injustices, de toutes les misères et de toutes les calamités de l'histoire.
La peste ! La peste ! La peste !
C'est la peste !
Oh, Dieu, je vais mourir.
Vous avez dû infecter beaucoup de monde.
Vous entraînerez tout seul loin dans la mort.
Cachez-vous, c'est la peste! La peste nous a rattrapés! Éloignez-vous, c'est la peste!
Jean Verdon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge sur lequel vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier, Le Moyen-Âge, Ombres et Lumières, hein, vient de sortir chez Perrin. Un livre dans lequel vous montrez en effet que la peste, mais aussi d'autres calamités, des guerres, des grandes famines, l'élimination des hérésies, la misère, font partie de toutes ces calamités qui ont fait du Moyen-Âge une des périodes, dit-on, les plus sombres de notre histoire. Mais vous montrez aussi tout ce que cette époque nous a laissé de meilleur, une époque d'ailleurs à laquelle on a donné un nom, le Moyen-Âge, qu'après qu'il se soit terminé. On se doute bien qu'un contemporain de Jeanne d'Arc ne disait pas « Chouette, on est au Moyen-Âge, vivement la Renaissance ou les temps modernes ». De quand date le mot, Jean Verdon ?
Le terme Moyen-Âge a connu successivement plusieurs sens. D'abord, ce terme désigne la période entre la venue du Christ et le jugement dernier. Puis, un second sens, c'est la période entre l'Antiquité féconde et la Renaissance. Et enfin, à la fin du XVIIe siècle, il y a un obscur faiseur de Manuel qui publie un ouvrage parlant du Moyen-Âge depuis Constantin le Grand, c'est-à-dire au début du IVe siècle, jusqu'à la chute de Constantinople, donc au milieu du XVe siècle. En réalité, aujourd'hui, on admet que le terme Moyen-Âge désigne cette période qui va, disons, en gros, des invasions barbares de la fin de l'Empire romain à la fin du 5e siècle jusqu'à la Renaissance.
Mais vous insistez sur le fait que c'est un découpage un peu arbitraire. Vous le remettez en cause. Si on le fait commencer, comme on le fait classiquement commencer, à la chute d'ailleurs de l'Empire romain, hein, lorsqu'en 476, le dernier empereur Romulus Augustule est renversé, il est renversé par les barbares, c'est déjà mauvais signe. Ça veut dire que avec le Moyen-Âge arrive la barbarie.
C'est un terme parfaitement arbitraire dans la mesure, par exemple, où les paysans en 1300 ou en 1600 ne mènent pas une vie différente, où la Renaissance se produit en Italie avant la fin du 15e siècle. Par conséquent, ce terme est arbitraire et, ainsi que vous le dites, on a vu dans le Moyen-Âge une notion d'obscurité. Le siècle des Lumières, déjà avec Voltaire, évidemment critiquait l'Église qui avait une telle importance au Moyen-Âge. Michelet, avec sa sorcière, voyait dans celle-ci le résultat de la politique de l'Église. Et puis l'anticléricalisme ne pouvait supporter ces siècles où la religion structurait la vie de tous les hommes. Heureusement, depuis un certain nombre de décennies, les médiévistes essaient de remettre les choses au point.
Et vous en faites partie. Alors nous n'avons pas le temps, Jean Verdon, de passer en revue tous les clichés, toutes les idées fausses qui ont fait la mauvaise réputation du Moyen-Âge, et d'ailleurs auxquelles vous tordez le cou. Mais au fait, vous le montrez aussi, les erreurs, le malentendu qu'il y a sur le Moyen-Âge, et tient surtout à l'ignorance du contexte dans lequel vivaient les hommes et les femmes du Moyen-Âge, très différent de celui d'aujourd'hui. Par exemple, on a du mal à comprendre, aujourd'hui, surtout dans le monde chrétien, l'omniprésence et l'omnipotence de l'Église, le poids, dites-vous, écrivez-vous, de la religion qui structure toute la vie médiévale.
En effet, la religion joue un rôle fondamental à cette époque, durant tout le Moyen-Âge, car elle domine la vie des chrétiens d'abord, et on a la peur de l'enfer. En effet,
une peur entretenue justement par l'Église.
Par l'Église. D'ailleurs, jusqu'à l'invention du purgatoire, ainsi que l'a montré Jacques Le Goff, il y a deux possibilités après la mort, soit le paradis, soit l'enfer. Or, il est très difficile d'aller au paradis. Les gens ont donc peur d'aller en enfer. Et ce qui le prouve, c'est, à la différence de notre époque, on a peur de mourir subitement, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on préfère mourir sans souffrance, et rapidement.
L'enfer, en effet, auquel sont vouées toutes les victimes d'une des plus sinistres institutions du Moyen-Âge.
Il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains.
Le tribunal de la sainte inquisition vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
Celui qui peut arrêter la fureur des hommes, il règne sur la fureur des flots, implorons.
Alors l'Inquisition, c'est évidemment le plus mauvais souvenir que pu laisser l'Église au Moyen-Âge. Et pourtant, vous vous demandez dans quelle mesure on n'a pas exagéré, au fond, les crimes de l'Inquisition.
Évident que l'Inquisition a commis des excès et il n'est pas que question de les justifier. Les procès se déroulent sans avocat. On peut faire intervenir la torture. Donc l'Inquisition est à condamner. Mais il faut quand même raison garder et se remettre dans la mentalité des hommes du Moyen-Âge qui voient d'abord le salut des hommes. Le corps sur terre ne vit que quelques années et ce qui compte, c'est la vie éternelle.
Ouais, donc, c'est une bonne intention, mais enfin les chemins de l'enfer en sont pavés, Jean Verdon.
Mais il faut convertir les hérétiques et parfois on essaie d'éviter le bûcher quand on peut convertir les hérétiques et un Bernard Guy, qui pourtant est de sinistre mémoire, a commué certaines peines en peines moins affligeante.
Alors, autre reproche que vous faites à l'Église, le fait qu'elle glorifie, qu'elle justifie, ce qui peut paraître surprenant, surtout dans le message chrétien, qu'elle justifie la guerre.
Elle justifie la guerre, ou tout au moins, elle justifie certaines guerres. Hein. Elle justifie, par exemple, la guerre contre les infidèles.
Les croisades.
Mais d'un autre côté, l'Église promeut la paix, et surtout la paix entre les chrétiens. Et je rappelle ici la paix de Dieu, qui demande au Seigneur, à partir de la fin du Xe siècle, Seigneur qui faisait des luttes privées entre eux, donc qui demande au Seigneur de ne pas s'attaquer s'attaquait aux pauvres, aux pèlerins, aux prêtres, aux femmes, etc. Et la trêve de Dieu, c'est-à-dire de s'arrêter de se battre depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin.
Sauf quand elle prêchait justement les croisades, vous citez, parce que vous n'êtes pas dupe sur ce Moyen-Âge. Il n'est pas seulement la lumière, c'est aussi une part d'ombre.
Bien sûr.
La violence, par exemple, de la prise de Jérusalem en 1099. Vous évoquez la prise de Béziers par cette autre croisade, la croisade des Albigeois. Simon de Montfort qui dit, en parlant des Cathares, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est terrible, en fait. Alors, justement, donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce qu'elle a pu laisser de meilleur. Hein, je pense évidemment aux cathédrales. Vous avez évoqué, Jean Verdon, la trêve de Dieu, la paix de Dieu. Et puis alors, il y a aussi les hospices. Il y a aussi les premières écoles de France quand un moine anglais donnait à Charlemagne au 8e siècle, une idée qui allait faire le malheur de plusieurs générations d'écoliers.
Qui es-tu ?
Un moine qui vient de loin, du pays des Angles.
Ton nom ?
Alcuin d'York.
Tu sais qui je suis ?
Oh oui, tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. Et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes ? Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois afin de défendre sa religion. Tu comprends ?
Les enfants, c'est en sachant lire et écrire que vous serez utiles. Le pays a besoin d'érudits autant qu'il a besoin de combattants.
C'est vrai.
Une fois que vous saurez lire et écrire les lettres, votre récompense sera d'apprendre le latin.
Et de l'enseigner aux autres.
Ce n'était pas, Jean Verdon, pardonnez-moi, un chant grégorien, mais France Gall qui a eu au moins le mérite, dans les années 60, de rappeler ce que l'école devait au Moyen-Âge et à Charlemagne. Car c'est vrai, on l'oublie souvent, l'enseignement, enfin l'Église avait le monopole de l'enseignement.
Charlemagne n'a pas inventé l'école,
non.
Bien entendu, mais l'Église avait en effet le monopole de l'enseignement. Il y avait des écoles dans les monastères, et les lettrés au Moyen-Âge étaient avant tout des clercs. Les textes que nous possédons ont été écrits par des clercs. Il y avait même parfois des laïcs, et j'ajouterais que certaines femmes avaient une instruction, comme Duoda, qui vers le milieu du 9e siècle avait écrit un ouvrage pour son fils qui se trouvait auprès de Charles le Chauve. L'Église joue donc un rôle fondamental dans l'école. L'Université de Paris est constituée avec des enseignants qui sont en particulier, alors vers le 13e siècle, des franciscains, des dominicains, c'est-à-dire des personnes appartenant à des ordres mendiants.
Mais qui était concerné par cette éducation ? Parce qu'il y va de soi qu'il n'y avait pas l'école laïque gratuite et obligatoire des instituteurs du 19e.
Alors, il faut distinguer plusieurs catégories. Il y avait avant ce qu'on appellerait l'université, et puis l'université. Avant l'université, et puis pendant le Moyen-Âge, qui est une longue période, je le rappelle, qui couvre 10 siècles, il y a eu une évolution. Ce sont avant tout les garçons qui sont... qui sont concernés. Dans l'université, ce sont uniquement des hommes qui vont à la faculté des arts, qui vont étudier la médecine ou le droit, et par exemple, les femmes n'ont absolument pas le droit d'y aller. Et on se rappelle qu'au début du 14e siècle, il y a un procès célèbre où une femme qui pratiquait la médecine a été condamnée, justement parce qu'elle pratiquait cette médecine, elle n'avait pas pu aller à l'université.
Oui, cette médecine, quand même, est importante. Évidemment, on citait la peste. La peste, d'ailleurs, les épidémies de peste ne sont pas produites qu'au seul Moyen-Âge. Il y avait également d'autres maladies. Il y avait la lèpre, et puis il y en aura. Ça durera longtemps, la peste. On la retrouvera bien plus tard encore jusqu'au 19e siècle. Il y a en même temps, parallèlement, un grand progrès de la médecine qui est quand même freiné, il faut bien le dire, au Moyen-Âge, par l'Église et par ce que l'on sait, en fait, du corps humain, qu'il est interdit d'ailleurs de découvrir à cause de l'Église.
Oui, et en même temps, il y a une évolution dans la médecine, et en particulier à partir du moment où l'on connaît la médecine arabe, en particulier Avicenne, et les traités arabes ont permis à la médecine occidentale de faire des progrès. Donc on ne sait pas traiter la peste, évidemment, on peut prendre que des mesures qui ne vont pas très loin, mais il y a quand même une évolution dans les connaissances médicales et nous avons toute une série de médecins à la fin du Moyen-Âge qui ont des connaissances déjà assez élaborées.
Alors il y a même, en vous lisant, ce qu'on pourrait presque appeler une sécurité sociale. On revient au rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est aussi d'apporter l'assistance dans ses hospices, dans ses monastères et le secours aux pauvres. C'était un peu la sécu du Moyen-Âge.
Absolument.
Même si elle est moins efficace que la nôtre aujourd'hui.
L'Église peut-être dite comme la sécurité sociale du Moyen-Âge, dans la mesure où les hospices, tout au moins pendant une grande partie du Moyen-Âge, ont été uniquement sous l'influence de l'Église. Après, l'État est intervenu à la fin du Moyen-Âge, mais l'Église a toujours joué un rôle fondamental. Et par ailleurs, il y avait des distributions aux pauvres. Il y avait on soignait non seulement les malades, mais on s'occupait des pauvres, ce qu'on appelait la matricule, par exemple, à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire une liste sur laquelle était inscrit un certain nombre de pauvres à qui l'Église faisait des dons.
Alors les pauvres, vous le rappelez Jean Verdon, ce sont surtout, là encore, se rappeler le contexte, essentiellement des ruraux, ce sont essentiellement des paysans, alors qu'ils vivent quand même et qui subissent un système féodal qui est assez dur, et d'abord le servage. Alors quelle différence y a-t-il, parce qu'on a souvent dit que c'était la prolongation de l'esclavage de l'Antiquité, entre le servage et l'esclavage? Est-ce que c'est la même chose?
Ce n'est pas la même chose. L'esclave est un objet, alors que le serf a une certaine personnalité. Il peut se marier avec l'accord de son maître, et même au bout d'un certain temps, quand l'Église demandera que le mariage soit le fait du consentement des époux, eh bien, le maître ne sera plus obligé d'intervenir. Ce sont des conditions différentes et il y a un certain nombre de serfs qui se rachètent, qui deviennent des affranchis. On a d'ailleurs un certain nombre de textes où l'on voit le Seigneur qui, par bonté d'âme, pour gagner la bienveillance de Dieu, accorde gracieusement l'affranchissement à ses serfs. Et puis à côté, on a d'autres textes où l'on voit que le serf a payé pour obtenir cet affranchissement. Ce qui prouve d'ailleurs que ces serfs pouvaient avoir de l'argent. Et la classe paysanne qui, ainsi que vous le disiez, correspond à la quasi-totalité de la population, n'est pas une, elle n'est pas homogène, et il y aura une évolution en particulier qui amènera certains paysans à devenir de petits hobereaux, de devenir des paysans aisés qui auront un niveau de vie à peu près semblable à celui de petits nobles.
Oui, mais écrasés aussi, c'est le cas des artisans, par un travail qui pouvait durer au Moyen-Âge jusqu'à 17 heures par jour. Alors, les 35 heures, ça se faisait en deux jours.
Là encore, ombre et lumière, car on travaille, en ce qui concerne les artisans, en fonction de la durée du soleil. Il est évident que l'été, le soleil se lève très tôt, se couche très tard, donc la journée dure très très longtemps. Mais l'hiver, elle est moins longue. D'autre part, il y a toute une série de fêtes qui sont chômées. On ne travaille pas le dimanche, on ne travaille pas après les vêpres le samedi. Il y a toute une série de saints qui sont fêtés, on ne travaille pas le jour de leur fête. Et ces saints sont nombreux, ils ne sont d'ailleurs pas dans le même nombre selon les diocèses. Rappelez-vous La Fontaine qui disait « Monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône ». Donc finalement, on a pu calculer, et c'est l'historien polonais Jeremek, connu par ailleurs, qui a montré, à partir d'un certain nombre de textes, que les artisans pouvaient travailler 20 à 22 jours par mois. Ils n'avaient pas, évidemment, les 5 semaines de congés payés, ni les 35 heures. Mais enfin, leur situation n'était pas aussi catastrophique qu'on pourrait le croire.
Alors, pareil aussi dans le domaine, ils sont écrasés aussi par les impôts. Alors là, il y en avait un certain nombre qui apparaissent plus ou moins tard, à l'époque du Moyen-Âge, la dîme exigée par l'Église, la taille, la corvée. Là aussi, il faut rappeler quand même que plus tard, bien après le Moyen-Âge, la Révolution française sera déclenchée en grande partie à cause de l'impossibilité de réformer les impôts, ou plutôt de la volonté qu'avait la population de le faire.
Certes, il y avait des impôts. Ils n'étaient pas toujours aussi lourd qu'on veut bien le dire. Il correspondait pour certains à des loyers, des terres que les paysans n'ont pas possédé. Certains en possédaient, c'était des allotiers, mais qu'ils louaient à leurs seigneurs. Et ces impôts étaient assez lourd, et justement sur son lit de mort, un roi de France a voulu les abolir, et il a fallu les rétablir au XIVe siècle parce que l'État en avait besoin.
Alors les impôts, l'État en a toujours besoin. Ce qui scandaliserait aujourd'hui Jean Verdon, c'est le fait que tout le monde ne les paye pas. C'est le cas des puissants. Vous avez tout un chapitre sur les pauvres, mais tout un chapitre aussi sur les puissants, qui ont évidemment une réputation assez détestable et qui perçoivent un impôt, notamment, qui est la corvée, alors qu'en revanche, il n'en touche aucun. Alors, vous rappelez aussi que, au fond, ça a révolté les gens après le Moyen-Âge, parce que, en échange de cet impôt, il n'y avait plus rien. En revanche, au Moyen-Âge, il y avait une contrepartie, il y avait l'impôt du sang.
Oui, pour les seigneurs, et ils devaient donner de leur temps pour aller à la guerre et aider leur suzerain dans ces guerres-là. Il y a distingué encore dans le Moyen-Âge, qui une nouvelle fois fait 10 siècles, une période où il y avait des guerres privées, où l'État n'était pas très puissant, et puis une période où il y a eu des guerres plus générales. Et alors, les guerres privées étaient interdites lorsqu'il y avait des guerres entre États, entre les souverains.
Et c'était le cas dans une des plus grandes batailles de la guerre de Cent Ans.
Puis-je, en droit et en conscience, prétendre au royaume de France?
Défendez votre dû, déployez votre bannière sanglante.
Vos frères, les rois et les monarques de la terre s'attendent tous à vous voir vous dresser, Majesté, comme jadis les lions de votre sang.
Maintenant, nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, noble muscle de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièces.
Gaiement en mer, hissez les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France.
La victoire est à vous, sire.
Comment s'appelle ce château?
On l'appelle Azincourt.
Alors ce sera la bataille d'Azincourt.
Vous connaissez bien vos postes? Dieu soit avec vous tous!
Et c'était la bataille d'Azincourt, un des plus grands carnages, Jean Verdon, d'une guerre de 100 ans, dont vous rappelez aussi qu'elle n'a pas vraiment duré 100 ans, qu'elle était entrecoupée, mais c'est quand même, il y a tout un chapitre aussi sur la violence au Moyen-Âge, et c'est peut-être aussi un de ses aspects les plus sombres de cette période.
Le Moyen-Âge est une époque violente, c'était évident. Si l'on cherche les différents types de guerres, on voit d'abord des guerres privées, des guerres entre les seigneurs. Il a fallu que l'Église intervienne, justement, pour essayer, non pas d'empêcher complètement, mais tout au moins de réduire la violence de ces seigneurs. Il y a les guerres entre États, et la guerre de Cent Ans est évidemment un des exemples les plus pertinents. Et Azincourt, en particulier, a été un carnage pour la noblesse française. Il y a eu des invasions, deux types d'invasions, les invasions barbares au début du Moyen-Âge et pour le 9e, 10e siècle, les Normands, les musulmans, les Hongrois. Mais il faut quand même dire que la guerre ne doit pas être considérée comme la guerre actuelle.
Infiniment plus meurtrière, d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire. Les guerres actuelles sont infiniment plus meurtrières et il n'y a pas d'arrêt dans ces guerres. On ne peut pas imaginer une guerre de 100 ans qui ne s'arrêterait pas par moments entre 1337 et 1453, qui sont les dates que l'on donne à cette guerre, où commencent les opérations et où elles finissent avec la bataille de Castillon. Eh bien, il y a des trêves qui durent longtemps.
Alors, il y a tout un chapitre qui est passionnant aussi. On n'a pas parlé, je voudrais qu'on l'évoque pour finir, le statut des femmes. Hein. La femme au Moyen-Âge, c'est quand même quelqu'un, la vie n'est pas très drôle pour elle. Vous citez d'ailleurs Georges Duby dans votre livre, Duby qui disait ce monde est masculin, seuls les mâles y comptent. Et c'est vrai qu'elles sont à l'écart, les femmes. Mais il faut y lancer.
Oui et non. Nous connaissons les femmes par des textes qui sont le fait de clercs lettrés, c'est-à-dire pour qui la femme représente le péché. Et il y a évidemment une misogynie à l'égard des femmes.
Les bûchers de sorciers, c'était surtout des bûchers de sorcières.
Oui, ah, ouais. Mais il faut signaler que ces bûchers de sorcières ont eu surtout lieu au XVIe siècle. Ça a commencé vers le XIVe, XVe, mais cela a explosé au XVIe siècle.
Elles exerçaient, contrairement à ce qu'on croit souvent, des pouvoirs, ne serait-ce que Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine et beaucoup d'autres.
Absolument.
Elles avaient des fiefs.
Certaines pouvaient diriger des fiefs à partir d'un certain moment, à partir du moment où le fief est devenu héréditaire et où le mari ou un avoué pouvait exercer le service d'host à la place de la femme, elles ont dirigé les fiefs. Et puis, je dirais surtout, et les femmes ont exercé un pouvoir qu'on ne voit pas. Ce sont les centaines, les milliers de femmes, des paysans, qui à l'intérieur de la maison, dirigeaient cette maison, nourrissaient la famille, faisaient les vêtements, élevaient les enfants, et de toutes ces femmes, les chroniqueurs ne parlent pas.
Oui, mais on dirait que c'est pas forcément gratifiant. En revanche, ce qui l'est plus, vous l'évoquez, c'est le fait que la femme était vénérée. Ce sont les femmes du Moyen-Âge qui ont inspiré l'amour courtois, les troubadours.
Certes, il faut quand même nuancé dans la mesure où l'amour courtois est quelque chose de littéraire qui touche avant tout la classe aristocratique, mais il a eu une influence et on a dit peut-être avec quelques générations que l'amour était né au XIIe siècle. En tout cas, il y a un art d'aimer qui s'est créé à cette époque.
Merci Jean Verdon. J'aurais aimé qu'on puisse vous entendre plus longuement réhabiliter le Moyen-Âge comme vous le faites dans votre livre, comme vous nous donnez d'ailleurs envie de le redécouvrir, comme vous le faites, je le répète, dans votre livre. Un beau voyage dans le passé qui nous donnerait presque l'envie d'y revenir, comme le faisait ce chevalier égaré au XXe siècle dans un film célèbre qui nous servira de conclusion.
Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes.
Ah, c'est sensationnel comme il raconte bien, on a l'impression d'y être, non?
Je suis du temps de Louis VI le Gros, je dois retourner dans mon temps. 1000 ans nous séparent. Je suis Godefroy Amaury de Malfaite, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfaite et de Thibaud de Montfaucon. Où est mon donjon? Où sont mes ours et mon pont-levis? Et mes oubliettes? Ils sont toujours intacts. Je dois retrouver mes oubliettes. Partons.
Non mais attends.
Il n'y a rien de bon ici pour nous.
C'était Godefroy de Montmirail, alias Jean Reynaud, un chevalier qui préférait retourner au Moyen-Âge que de vivre au XXe siècle. Le Moyen-Âge dont vous nous montrez le pire, mais aussi le meilleur dans votre livre, Jean Verdon, et que je recommande aujourd'hui à la lecture. Le Moyen-Âge, Ombres et Lumières, publié cette année chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de 5 films ou téléfilms. Nostradamus de Roger Christian, disponible en vidéo chez Metropolitan Film. La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi, disponible en DVD chez LCJ Éditions. Charlemagne, le prince à cheval, un téléfilm de Clive Donner. Henri V, de et avec Kenneth Branagh et la voix de Gérard Depardieu qu'on a reconnu dans la version française, disponible en vidéo chez Renaissance Film. Et enfin, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, disponible en DVD chez GCTHV. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci.